handicap international qui va nous amener un relais complémentaire pour renforcer ce que tu as dit. Julien, tu as la parole.
Merci François, bonjour à tous. Je m'appelle donc Julien Fouillant, je suis spécialiste en réduction des risques de catastrophes et en adaptation au changement climatique à handicap international, donc on s'appelle handicap international dans les pays francophones et on a une autre appellation pour les pays anglophones. Bon, pour la petite histoire, c'est parce que handicap en anglais ça sonne pas très bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là et qu'on a cette double appellation. Je vais essayer d'être assez bref, hein, donc on est une ONG qui a été créée en 82, qui vise à intervenir avant, pendant et après la survenue de crise, hein, qu'il s'agisse de conflits ou de catastrophes naturelles. On a cette ambition d'améliorer l'accès aux services qu'on considère essentiels et d'autres spécifiques pour des populations que là aussi on considère comme plus vulnérables que d'autres. Pas seulement les personnes handicapées, hein, mais aussi les personnes qui sont confrontées à des risques plus élevés de désastre. Certains facteurs ont été évoqués par Guillaume, hein, on va retenir l'âge, le genre, le handicap, mais aussi beaucoup la localisation géographique, le statut économique, les origines ethniques, les orientations politiques, etc. En 2019, on intervient dans à peu près 60 pays via une fédération, en fait, hein, c'est-à-dire on travaille à côté de ces pays avec le soutien de 8 associations nationales. Concrètement, c'est des bureaux hein, dans les pays dits du Nord, Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, etc., pour faire du plaidoyer, de la collecte de fonds. Tout ce petit monde est réuni autour de 2 sièges sociaux. L'un se trouve à Lyon, là où je suis physiquement aujourd'hui, et l'autre est à Bruxelles. J'ai à peu près 4 200 collègues. La grande majorité d'entre eux, presque 80%, sont en fait des personnels nationaux, c'est-à-dire que la grande majorité de mes collègues, ils sont haïtiens, philippins, malgaches, etc. On a donc à peu près 400 personnes dans les sièges que j'ai mentionnés dans les pays du Nord. Un budget autour de 200 millions d'euros par an, ce qui peut sembler beaucoup, mais ce qui est assez modeste en fait, hein, comparativement à d'autres organisations internationales comme Oxfam International, CAIRN International, le mouvement Croix-Rouge, etc. Et l'essentiel de ces fonds, ils ne viennent de subventions publiques, c'est-à-dire des gouvernements allemands, français, américains, du Royaume-Uni, etc. Et finalement, un tiers, c'est de la subvention privée via des fondations d'entreprises, des dons, des legs de particuliers, etc. C'est toutes ces ressources qui nous permettent de mener à peu près 400 projets par an. Il ne s'agit pas seulement de projets de RRC, loin de là. Hein. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des projets qui ont plus trait je dirais, au mandat historique de mon organisation, donc la réadaptation physique et fonctionnelle des personnes qui ont subi des traumas, la réduction de la violence armée, qui passe notamment, mais pas seulement, par le déminage, l'éducation au risque liée aux restes d'engins explosifs de guerre, la santé mentale aussi, qui est très liée à la réadaptation, le soutien psychosocial, etc., etc. Donc finalement, la RRC, c'est un secteur parmi 12 autres dans mon organisation. Je passe les détails, hein, mais disons qu'il y a tout vous en avez une bonne idée, hein, c'est pareil chez vous, je suppose, mais on a une diversité de métiers assez intéressante. Les experts techniques, les services de la logistique, de la gestion admin, financière, etc. La principale question qu'on me pose en général, ça fait maintenant 5 ans que je suis là, c'est pourquoi une organisation comme Handicap International s'intéresse à la réduction des risques? Je pense qu'il y a 3 manières d'y répondre. La première, c'est de rappeler ce qu'a mentionné Guillaume, hein, c'est-à-dire qu'il y a une frange très significative de la population qui est exclue des dispositifs de gestion des risques et des crises. Je fais plutôt référence aux pays dans lesquels on intervient, mais je pense que c'est aussi assez vrai dans les pays où on lève des fonds. Donc pas seulement là encore les personnes handicapées, hein, même si ça représente 15% de la population mondiale, mais aussi donc les femmes, les groupes d'âge, les minorités ethniques, les populations géographiquement isolées. Et je vous épargne des datas qui sont, pas des données qui sont assez explicites, je trouve, mais qui montrent vraiment cette surreprésentation de certains groupes sociaux au cours de catastrophes. Je vous donne une donnée que je trouve assez explicite, qui aurait pu être partagée par Guillaume pour le coup, hein. Les 2 tiers des personnes qui ont perdu la vie au cours du tsunami de 2004 en Indonésie, dans la province du Nord-Sassé, étaient des femmes. Et c'est aussi vrai dans les pays industrialisés, hein. Au Japon, en 2011, on sait que c'était combien? C'était oui, le taux de mortalité qui était le double parmi les personnes handicapés comparé au reste de la population en 2011 suite au tsunami. Donc voilà, il y a vraiment un sujet. Le deuxième facteur de mobilisation de HI, donc Handicap International, sur ce sujet-là, c'est que on sait que les catastrophes, elles augmentent la vulnérabilité des populations partenaires. On sait que ça génère des pertes de moyens de subsistance. Donc ça accroît la situation de vulnérabilité des personnes, les endettements, la perte ensuite d'accès aux services essentiels, hein, l'éducation, la santé, tout ça dépend des capacités des ménages en fait à générer des revenus. C'est aussi source de stress post-traumatique très fort. Et comme je le disais, on est investi sur ces questions-là assez fortement. Et puis aussi, ça augmente la prévalence de traumas physiques, handicap. Là aussi, je vous rappelle peut-être, hein, au Népal en 2015, à Haïti en 2010, c'est énormément de traumas physiques, hein, qui ont été causés et qui ont augmenté la prévalence du handicap notamment. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'on observe depuis longtemps, et on n'a pas été les premiers à le dire, mais qu'il y a un lien très fort entre conflits et catastrophes naturelles. On sait, et on l'a démontré, que les conflits aggravent la vulnérabilité aux catastrophes. On sait aussi que les catastrophes aggravent ou déclenchent les conflits suite à la perte de moyens de subsistance, à la raréfaction de ressources, à la relocalisation de personnes qui sont contraintes de se déplacer dans des zones à risque de désastre, etc. Donc finalement, c'est pour ces trois raisons qu'on a vraiment investi ce sujet-là. Je dirais que même c'est la moitié aujourd'hui des projets qu'on mène qui sont de RRC cette fois, hein, qui sont mis en œuvre dans des pays en proie à des conflits de faible, parfois de forte intensité. Donc vous voyez, on a des projets assez classiques, on va dire, de RRC à base communautaire, à Haïti, aux Philippines, etc. On va mettre en place, on va aller emprunter plusieurs activités et méthodologies évoquées par Guillaume. Évidemment, vu notre mandat, on va s'assurer de la participation des groupes les plus à risque dans ces activités. On va s'assurer qu'elles bénéficient aussi à ces personnes-là. Et on fait aussi de l'assistance technique auprès d'autres organisations pour promouvoir ces pratiques plus inclusives. Mais on est aussi très présent dans des pays où on retrouve moins d'acteurs de la RRC, hein, donc par exemple à Gaza, au Yémen, dans les pays du Sahel. Y compris dans les zones assez déstabilisées sur le plan sécuritaire, pour à la fois gérer les risques naturels, mais aussi tenter de prévenir les risques de violences armées, c'est-à-dire les incursions armées, les bombardements, les répressions armées de manifestations, ou encore les restes d'engins explosifs de guerre, qui correspondent vraiment plus à, ben, en tout cas, initialement, au savoir-faire de Handicap International. Donc on dirait qu'on raccroche les wagons, de ce point de vue-là. L'exemple que j'aurais voulu vous partager, je ne sais pas combien de temps il me reste, François, peut-être 1 ou 2 minutes.
Voilà, 2 minutes sans problème.
Bon, bah, très bien. Donc effectivement, ce qui nous distingue peut-être, en tout cas ce sur quoi on essaie de travailler davantage, c'est sur cette approche sensible au conflit, en tout cas l'application de méthodologies RRC à des contextes de sécurité très dégradés. Et ça nous a amené, donc l'exemple que je voulais vous partager, c'est celui de la sécurisation d'établissements scolaires. Alors, je ne vous apprends rien, hein, les établissements scolaires, c'est souvent des systèmes. Enfin, les systèmes éducatifs sont souvent inclus au projet de RRC, qu'ils soient mis en œuvre en France, en Europe ou dans les pays du Sud, parce que ils servent souvent d'abri collectif, hein, bon gré et mal gré. C'est souvent les seuls abris en dur, en tout cas, qu'on trouve, nous, dans les pays dans lesquels on intervient. Ils hébergent aussi une population qu'on va considérer vulnérable. La difficulté supplémentaire là qu'on s'ajoute, c'est de le faire dans les contextes justement où il y a potentiellement des attaques armées, des enlèvements, des menaces, parfois des assassinats, etc. Donc on a été mandaté en 2017 au Mali, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, pour tenter de développer cette approche qu'on va qualifier de safe school, en tout cas de réduction des risques multiples en contexte scolaire, à la fois face aux inondations notamment et aux risques d'incendie, etc., qui sont pas négligés, hein, mais évidemment la priorité que nous expose la communauté éducative et le ministère de l'Éducation nationale qui nous a sollicité, c'est bien de faire face à ces risques de violences armées. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on va retrouver certaines méthodologies de la RRC, hein, donc des diagnostics participatifs, des risques, des travaux de mitigation pour se protéger physiquement face à ces aléas, On va tenter de développer ou de renforcer des systèmes d'alerte précoce, de développer des procédures opérationnelles standards, des dispositifs en fait de réponse qu'on va même tester. Évidemment, là encore, on est dans des contextes qui sont tellement sensibles et difficiles à appréhender qu'il est difficile de s'assurer comment dire, de la protection des populations qui participent à ces projets. Donc c'est là tout l'enjeu. Écoutez, voilà, au final, on a 20-25 projets par an en RRC, un handicap international, aux côtés donc d'autres secteurs d'intervention, via des partenariats directs, donc avec le financement d'agences de coopération gouvernementale, etc., des fonds privés, des partenariats techniques, universités, laboratoires, services de l'aménagement, de la santé, de la météorologie, de la géologie, etc. Et aussi toujours des partenariats locaux. Je pense que c'est plus en lien, en tout cas c'est très lié au sujet qui nous amène aujourd'hui. Je vois que mon temps m'est écoulé, donc je laisse ce sujet être abordé par la suite. Merci à vous.
Merci, merci beaucoup Julien. Moi, je retiens là quelques mots encore complémentaires de ce qu'avait dit Guillaume. Hein, le mot groupe à risque, l'enjeu de faire de la GRC en contexte instable, fragile, voire de conflit. Voilà, c'est des éléments additionnels de ce que, à ce que Guillaume a apporté. Donc vous voyez déjà avec ces deux exemples-là, on démontre que les ONG françaises et leur réseau de coopération internationale très développé dans leur propre réseau d'associations et d'actions et de bailleurs ont des approches très fortes, très complètes sur ces questions-là. Je voulais avant qu'on ait la présentation par la Pirois de leur travail sur la plateforme de l'océan Indien, mais comme ils ne peuvent pas venir, ils m'ont demandé de présenter. Alors c'est une autre dynamique assez différente, mais très riche. Donc la Pirois, la Pirac pour l'Amérique et les Caraïbes et la Pirops pour le Pacifique du Sud sont trois plateformes mises en place par la Croix-Rouge française au service du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Hein. Donc c'est la Croix-Rouge française qui pilote sur des gros déploiements. Des gros moyens internationaux autour de, avec plusieurs caractéristiques. Alors d'abord, ça travaille aussi bien sur des entités du territoire français d'outre-mer que sur le proche international. Donc la Pirois, basée à La Réunion, qui travaille sur l'ensemble de l'océan Indien, y compris Mozambique, Tanzanie, puisque une partie des dynamiques climatiques de l'océan Indien traverse Madagascar pour faire un deuxième, se recharger sur le canal du Mozambique et atterrir sur le Mozambique, la Tanzanie. La Pirac, donc basée à la Guadeloupe, mais qui travaille sur l'ensemble des Caraïbes, francophones, anglophones, néerlandophones, mais aussi sur l'Amérique centrale. Et enfin, la Pirops, qui basée donc en Nouvelle-Calédonie et qui couvre l'ensemble, Vanuatu, etc. Donc voilà, donc on a un dispositif très original qui fait du franco-international en se basant sur des bases françaises, des territoires français, pour à la fois répondre aux catastrophes qui peuvent les toucher, mais qui répondent aussi aux catastrophes qui touchent leurs environnements. Donc ça, c'est un premier élément très original. Le deuxième élément qui est caractéristique de toutes ces plateformes, c'est un ancrage profond sur les enjeux de l'éducation populaire à la gestion des risques. On parlait tout à l'heure dans avant que le séminaire démarre de l'enjeu de la culture du risque, c'est au cœur de leurs travaux. La Pirois a mis en place des programmes très étonnants qui s'appellent Paré pas paré, donc prêt ou pas prêt, qui travaillent dans les écoles et qui ont été après répliqués dans les Caraïbes et dans le Pacifique, qui travaillent vraiment sur la création d'une culture de risque pour les populations, y compris pour les enfants, pour les jeunes, pour les scolaires, etc. Donc ça, c'est un élément très fort. Car tout le monde sait, et en tout cas on le voit de plus en plus avec ces changements climatiques, que les catastrophes se mettent à avoir des dynamiques nouvelles, inconnues, imprévisibles. La trajectoire du cyclone, on avait pensé que ça allait sur cette partie-là de l'île, et en fait, au dernier moment, dans la dernière demi-heure, ça tourne et ça va de l'autre côté, et ça touche des populations qui ne sont pas prêtes s'il n'y a pas eu ces programmes. Donc C'est un volet très important de ces approches de la, des plateformes de la Croix-Rouge française. Deuxième élément, c'est un ancrage très profond dans les mécanismes de gestion des risques des différents pays dans lesquels ces plateformes travaillent, et qui sont souvent des pays insulaires. Donc ça veut dire déjà il y a une caractéristique particulière de l'insularité, des types de risques sur l'insularité, des types de culture de l'insularité et des types d'acteurs présents dans les îles, et donc savoir travailler avec et la Croix-Rouge locale, la Croix-Rouge nationale, et les protections civiles nationales, et les réseaux de pêcheurs, et les mécanismes d'agence de gestion des risques dans ces territoires souvent tout petits et très importants. La troisième caractéristique, c'est qu'évidemment, ces plateformes travaillent sur des très grandes élongations, c'est-à-dire que de la Pyrois, du jour de la Pyrois à La Réunion, à Madagascar, ou vers les Comores, ou des Guadeloupes vers la côte du Nicaragua qui pourrait être touchée, ou vers les îles, c'est des grandes élongations maritimes. Et donc, ces plateformes ont développé des expériences très importantes autour de la logistique humanitaire, des moyens à mobiliser, aériens, en bateau, des stocks. On s'en compte souvent d'ailleurs sur les dispositifs de l'armée française, très présente dans ces zones, en maintenant évidemment les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, chers au mouvement Croix-Rouge et que Guillaume a souligné parce qu'ils sont communs à toutes les ONG humanitaires. Mais voilà, être obligé de travailler avec des acteurs de la logistique est un élément essentiel. Donc, leurs propres stocks, leurs propres moyens, mais aussi déployer des capacités de stock décentralisés avec les Croix-Rouges nationales, travailler sur les prépositionnements, en sachant que une des caractéristiques de l'enjeu de la réponse aux catastrophes naturelles, c'est la réponse rapide. Et donc la réponse rapide, elle ne peut être que réellement locale, soutenue dans un deuxième temps des moyens internationaux. Peut-être deux derniers éléments de ces expériences de la Croix-Rouge. Un qui est l'ancrage dans les systèmes d'alerte précoce, des travaux très intenses avec Météo France dans ces trois territoires français, mais dont les capacités d'analyse des risques climatiques, etc., sont très importantes. Pareil avec l'Institut du volcan, du Piton, et chaque fois qu'il y a besoin de travailler avec des instituts qui travaillent sur la sismologie dans ces territoires français, avec répercussions sur l'international, donc beaucoup de travail sur le système d'alerte, et enfin un ancrage dans les systèmes de formation nationaux de toute la zone pour, là encore, renforcer les capacités des acteurs nationaux à être mieux à même à répondre. Donc voilà cette originalité de ces trois dispositifs qui sont uniques au monde, hein. C'est vraiment une marque de fabrique du système de la Croix-Rouge française, ces plateformes de réponse régionales, et qui sont tout à fait intéressantes à observer. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme en représentation de nos amis de la Croix-Rouge française qui n'ont pas pu être avec nous, mais qui ont vraiment, dans le cadre de notre réflexion sur les expertises françaises et des ONG françaises, de la société civile française en gestion des risques, des choses très complémentaires de ce que Guillaume de Ker et Julien de Handicap International nous ont présenté. Voilà, je m'arrête là et normalement maintenant, on a nos deux discutants qui vont intervenir.